À la même époque, elle circule beaucoup aussi entre les États-Unis et l'Europe, et elle va notamment venir plusieurs fois en Allemagne, dans un festival, le Pina Bausch Festival à Wuppertal. Elle va rencontrer Pina Bausch, elle va se lier d'amitié avec elle, et ça va certainement avoir un écho dans son travail à venir. Nous allons y revenir ensuite. Et puis, en 2001, pour la première fois, elle présente son travail à Wuppertal, dans la structure de Pina Bausch, et c'est l'année où elle fait son retour en Corée. Alors vous allez me dire, qu'en est-il de la création contemporaine en Corée dans ce début des années 2000? Séoul devient une scène internationale pour la danse véritablement à partir de 2010. Du moins, mes recherches, les éléments que nous pouvons croiser à cet endroit-là nous font comprendre que Séoul est aujourd'hui une scène internationale pour la danse incontestable, avec ses compagnies, ses lieux de formation, ses lieux de résidence, ses concours, ses lieux de diffusion, ses propres techniques de danse contemporaine. Mais tout cela est somme toute récent. L'exception que l'on peut nommer, c'est une compagnie, c'est la compagnie de danse de la ville de Daegu, qui a été fondée en 1981. C'est une première compagnie, on va dire, à dimension nationale, publique, de danse moderne, en Corée. Elle propose dès les années 80 un programme riche, varié, et à son retour en Corée, Eun-mi Han va devenir directrice artistique de cette compagnie de 2001 à 2004. Et elle va y créer ses premières pièces importantes. Elle sera d'ailleurs, alors je ne sais pas s'il y a des fans de football parmi vous dans la salle, mais c'est elle qui va chorégraphier la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de football qui aura lieu à Daegu en 2002. Donc on est dans une période comme ça d'éclosion et de transformation de la Corée du Sud en pays vraiment dynamique au niveau de la danse contemporaine. C'est une construction assez silencieuse dans les années 2000, mais nous sentons une explosion de cette scène coréenne autour des années 2010 à travers différents éléments. Je vais vous en présenter uniquement quelques-uns. D'abord, on a un grand festival qui se crée en 2000. Mais qui va vraiment se développer par la suite dans les années 2010 puis 2020, c'est le Seoul Performing Arts Festival qui depuis 2019 a intensifié sa coopération internationale en développant, en s'associant en tout cas au festival Dance Reflections by Van Cleef & Arpels. Donc vous voyez que là, on est sur un festival qui cherche une diffusion de spectacles internationaux et qui sont connectés à des questions actuelles. Le festival a lieu sur plusieurs semaines, un mois quasiment, autour de Séoul. Actuellement, les questions qui sont, je dirais, à l'honneur sur ce festival depuis quelques années sont ce qu'ils appellent les récits diversifiés sur les femmes, le genre, le handicap, le vieillissement. Ils veulent encourager les projets qui relient l'art, les sciences, les nouvelles technologies, et puis s'intéresser aux pratiques artistiques qui cherchent à questionner le respect à l'environnement. Donc voilà, ils sont très, comme ça, pétris des questions, je dirais, qui gouvernent un certain nombre de projets au niveau mondial. Un autre exemple, c'est la création de la première compagnie nationale coréenne de danse contemporaine, qui est renommée et fondée, on va dire, en 2010, aujourd'hui dirigée par Kim Seung-yong, qui y propose effectivement des créations de danse contemporaine, mais c'est une compagnie aussi qui invite des chorégraphes ayant des visions artistiques fortes dans une pensée contemporaine. Le directeur actuel dit que la danse est un langage indicible, un moyen d'expression authentique qui permet de s'exprimer avec sincérité. Alors lui-même va mettre en place sa propre technique, je dirais, de travail et de création qui s'appelle Process Init, qui est axé sur la sensation et la réaction et qui s'appuie sur la recherche de mouvements atypiques et créatifs dans des procédures qu'il met en œuvre avec ses propres danseurs. Il a été découvert notamment en France avec une pièce qui s'appelle Jungle en 2024 qui a été programmée à Paris au moment des Jeux Olympiques. Donc peut-être qu'on en a peu entendu parler du fait voilà, des Jeux Olympiques. Donc une compagnie nationale, il y a aussi des compagnies régionales, il y a aussi en Corée des concours de danse contemporaine, notamment le Korea International Contemporary Dance Competition, de ce que j'ai pu en voir, c'est un peu l'équivalent en Europe du concours de Lausanne. Peut-être que certains d'entre vous ont plaisir à le regarder, notamment sur Arte Cancer. Et donc ce concours de Lausanne en Suisse, qui était au point de départ un concours plutôt de danse classique, mais qui s'est ouvert à la danse contemporaine. Et là, ce concours de danse contemporaine coréenne a été créé par l'Association coréenne de danse en 2010, avec pour but de promouvoir le développement de la danse contemporaine en Corée et l'émergence de jeunes danseurs. La particularité peut-être de ce concours, c'est que les prix permettent des échanges internationaux. Par exemple, en 2025, il y avait des bourses pour aller travailler avec, notamment en France, le ballet de l'Opéra Grand Avignon, ou encore la Rambert School au Royaume-Uni, ou encore une compagnie de danse contemporaine aux États-Unis. Et c'est donc dans ce contexte très dynamique au niveau coréen que notre chorégraphe de ce soir, Eun Mi-han, va fonder sa propre compagnie, quitter une compagnie de ville pour fonder sa propre compagnie, la Eun Mi-han Company, qui a créé à ce jour plusieurs dizaines de pièces. Et c'est notamment au début des années 2000, avec une pièce qui s'appelle Symphoka Princess Barry, qu'elle va obtenir une reconnaissance internationale durable. Elle est découverte notamment, Eun Mi-han, en France autour de 2013-2014 au festival Paris Quartier d'été. Et là, on découvre sa nouvelle manière de concevoir les spectacles, assez éloignée du court extrait que je vous ai montré à l'instant, qui date des années 90. Elle a trouvé des nouvelles voies pour mener son travail vers des choses assez inattendues, assez excitantes. Et je vous propose d'en découvrir différents éléments dans cette deuxième partie de notre conférence. On va voir que les thèmes importants qu'elle aborde sont vraiment reliés à une philosophie contemporaine que nous partageons. Alors tout d'abord, Eun Mi-han met en œuvre des relectures qui sont entre tradition et modernité. En effet, si certains artistes contemporains sont immédiatement, définitivement dans le rejet de la tradition, et uniquement en quête de devenir, je dirais, Eun Mi-han fait partie de ceux et de celles qui vont plutôt assimiler, intégrer les forces de la culture du passé, les forces de la culture de la tradition coréenne, pour ensuite les dépasser, les transgresser, les faire dialoguer avec des formes nouvelles et avec la société d'aujourd'hui. C'est le cas de Symphoka Princess Barry, qui est une adaptation chorégraphique en 2007 d'une légende coréenne qui sera présentée tout d'abord en Corée, puis dans une grande tournée internationale. Notamment, elle sera présentée au Tanztheater Wuppertal de Pina Bausch. C'est une pièce pour 10 danseurs, 5 musiciens et 5 chanteurs. C'est une relecture, de l'histoire de la princesse Barry, un conte chamanique qui narre l'histoire, la vie d'une jeune princesse abandonnée par son père, le roi, qui rêvait d'un garçon. Elle est jetée à la mer, recueillie par un pêcheur, et puis ensuite elle va effectuer un long voyage dans l'au-delà pour y chercher l'élixir de vie qui sera capable de sauver ses parents biologiques. Alors j'en mets un court extrait que je vais commenter par la suite. Alors, c'est un mythe très répandu en Corée, ce mythe de la princesse Barry. Elle se décline en de multiples versions selon les régions. En haut à gauche, je vous ai mis une lithographie de la princesse Barry tenant une fleur offerte par le Bouddha pour libérer les gens malheureux de l'enfer. En bas, vous voyez le début d'une séquence chorégraphiée par Eun Mi-han. Alors, les thématiques du conte sont présentes. Des questions de dynastie, de lignage, de destin, d'eau miraculeuse, de devin, de karma. Et vous le comprenez, un paramètre a été changé. Eun Mi-han fait interpréter la jeune princesse par un homme. Et elle va même plus loin, elle va lui demander de chanter avec une voix très haut perchée. comme il se doit dans la tradition coréenne, ce qui ajoute de la confusion. Relecture donc de ce mythe, et puis relecture de la forme visuelle aussi. Des démons sont en robe à pois, les serviteurs du temple ont des gants en caoutchouc rose. Tout en gardant une structure dramaturgique qui réunit danseurs, chanteurs et musiciens comme dans la tradition. En faisant jouer la princesse Bari par un homme et en posant la question de liberté d'être soi, elle va dans la lignée de certains chorégraphes qui ont pu faire des relectures du Lac des Cygnes, par exemple, en Occident. On peut penser à Matzek, par exemple, qui avait fait jouer le cygne par un homme. C'était le cas de Mathieu Bourne aussi, de Dada Massilo. Donc on est dans cette recherche de la quête d'être soi qui va rapidement s'étendre à la question de la société, de la diversité, de la différence. Et Eun Mi Han va rapidement se confronter à la Corée d'aujourd'hui. D'abord, elle commence une trilogie. Tout à l'heure, nous l'évoquions au tout début lorsque on parlait de la conférence de ce soir. C'est cette pièce Dancing Grandmother qui aurait dû être programmée au Quartz pendant le confinement. Elle va commencer une trilogie autour des générations. Trois pièces sur les grands-mères, sur les adolescents et sur les hommes d'un âge moyen. Avec Dancing Grandmother, elle va partir dans une itinérance de plusieurs semaines où elle part dans différentes provinces de Corée pour rencontrer des femmes âgées, paysannes pour la plupart, et leur demander de danser. Elle les filme. Et c'est le point de départ de cette création qui va associer des danseurs de la compagnie et un groupe de femmes âgées. L'année suivante, elle va s'attaquer aux adolescents avec Dancing Teen Teen, là encore pour 10 danseurs et 10 amateurs. Et l'année d'après, elle s'attachera aux hommes coréens âgés de 40 à 65 ans dans Dancing Middle Age Men, pour cette fois-ci mettre en scène plutôt les chefs de famille, les employés seniors des entreprises, ceux qui ont la pression de la productivité coréenne, et ceux qui connaissent finalement cette pression entrepreneuriale, qui n'ont jamais connu la guerre par contre, et qui souvent soignent leur mal profond par un alcoolisme latent. Et elle va comme ça questionner cette chose-là dans cette troisième opus. Mais voici un extrait de Dancing Grandmother, puisque chacun des opus essaye de mettre ces générations en fête, de fêter ces générations à partir de ce qu'elles sont. Oh, Alors, le spectacle finit dans une joyeuse danse où le public est aussi convié à venir sur scène. Voilà, cette idée aussi que le spectacle et que la danse est la joie de partager. Après cette première trilogie qui s'intéresse aux générations, aux différentes générations en Corée, elle va s'attaquer à une autre trilogie en 2016 sur le handicap et la différence. Toujours sur le même principe d'inviter au plateau aussi des danseurs amateurs qui se mêlent aux danseurs professionnels. Cette fois-ci, elle va commencer cette trilogie avec Anshim Dance, une pièce avec des personnes aveugles. Puis elle aura deux autres pièces avec des personnes de petite taille, mais aussi avec des personnes transgenres. Cette idée est encore de faire rencontrer sur scène des danseurs professionnels et amateurs et de mettre en scène ces questions qui touchent la société en général et poser la question de la différence. Au sujet de Anshim Dance, elle dit « À cause de leurs différences, consciemment ou non d'ailleurs, on met d'office ces gens dans des cases, on les enferme dans des stéréotypes. Comme ils ne sont pas dans la norme, on pense qu'ils sont faibles, qu'ils ne peuvent pas s'intégrer dans la société, lui apporter quelque chose, et du coup, ils sont à la marge. Pourtant, ces personnes sont belles et elles sont fortes, précisément parce qu'elles doivent s'adapter à un monde où rien n'est facile, où rien n'est fait pour eux. Je veux montrer ça, montrer qu'on peut être ensemble et être bien ensemble, en laissant de côté nos différences et les préjugés qui vont avec. Tout est une question d'état d'esprit. » Ainsi, Eunmi-han travaille à accepter les différences, à être cosmopolite, dans une Corée divisée depuis plus de 70 ans, vous le savez, en deux états, souverains, politiquement antagonistes, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Cela va être l'objet d'une pièce en 2018, qui va s'appeler North Korea Dance. L'histoire des deux Corées est celle d'une culture commune, une culture traditionnelle commune, et d'une manière de la vivre, de la montrer, qui est vraiment différente. Alors, petit rappel, peut-être pour les plus jeunes d'entre nous, en 1953, ça va être la partition de la péninsule coréenne suite à un armistice qui met fin à un conflit fratricide qui va faire 3 millions de victimes. Et dorénavant, on va avoir une Corée du Nord et une Corée du Sud qui sont voisins, qui sont les deux états du pays du matin calme, mais qui vont avoir des relations tumultueuses. Et Eunmi-han va s'intéresser à cette culture dansée de la Corée du Nord. Elle constate, on connaît surtout son dirigeant, sa course à l'atome, mais qu'en est-il de l'art, de la culture et de la danse dans ce pays ? Alors, contrairement à d'autres projets où elle a pu se déplacer, où elle a pu mener l'enquête, je dirais, impossible pour elle de franchir la frontière physiquement. Mais il est possible pour elle de consulter des vidéos, notamment présentes sur la bande passante d'Internet, pour ce qui est posté depuis l'autre côté de la frontière et qui arrive à être capté par le côté Corée du Sud. Et elle témoigne ainsi de ce qu'elle y voit. Je vais y mettre peut-être quelques images que j'ai moi-même téléchargées de Corée du Nord. Voilà ce qu'elle dit. Des images de gigantesques ballets à la gloire du régime, donnés dans des stades où des enfants pixels transforment les tribunes en écrans reproduisant une iconographie d'un autre temps. Des images de chants et de danses traditionnelles communs aux deux pays. Des pom-pom girls aux Jeux Olympiques, mais aussi des clips inspirés de la fameuse K-pop dont le Sud a fait une marque de fabrique. C'est le point de départ de cette création, fabriquer des formes extrêmement organisées et codifiées, produire des images créant une danse de propagande, tout en la tordant, tout en la déclinant évidemment, mais aussi en s'appuyant sur les cultures communes aux deux pays. En voici un extrait. Alors, avec ces quelques extraits et puis ce montage sur ce North Korea Dance, vous remarquez qu'il y a des récurrences dans le travail de Eunmi Han. D'abord, très souvent, un travail dramaturgique en tableau qui donne du rythme aux pièces avec des changements de séquence, hein, comme un puzzle qui se déplie. Pour certains projets, associer des danseurs de la compagnie à des danseurs amateurs lorsque ces pièces touchent des questions sociétales. Et puis des matériaux multiples, de la danse, de la musique, du chant, de la vidéo, parfois des actions, de la manipulation d'objets. Ces trois éléments-là que je viens de citer, ça peut vous faire penser aussi au Town Theater de Pina Bausch. Par contre, l'esthétique choisie est très différente. Par contre, il y a une chose qui vous saute aux yeux certainement, c'est la couleur. La couleur dans les costumes, dans la scénographie. Et cette scénographie qui n'est pas pensée comme un lieu, mais plutôt comme un environnement, une tapisserie colorée. C'est vraiment une sorte de renouvellement du rideau de fond de scène, quelque part. Et au sujet de la couleur et des costumes, Eunmi Han est très attachée à cette question de la couleur. Elle dit « Il est vrai que, contrairement à moi, les Coréens portent peu de vêtements colorés. Je considère que la couleur est une façon de se libérer, de s'exprimer individuellement, ce qui est un enjeu de fond pour toute démocratie vivante. » Et c'est vrai qu'il y a aussi énormément de couleurs dans les danses traditionnelles et dans les danses rituelles. C'est un point commun. Dernière récurrence, je dirais, ce maillage de références culturelles plurielles, de la tradition jusqu'à la culture pop. Elle s'amuse comme ça à prélever des références culturelles et à pouvoir les mixer sans aucun complexe. Je vous en montre que quelques secondes, mais dans Dancing Tintin, on parlait de K-pop au point de départ. Pour Dancing Tintin, autour des adolescents, évidemment, les danseurs amateurs et les danseurs de la compagnie vont reprendre tous les grands stéréotypes, je dirais, présents dans la K-pop et dans les danses issues de la K-pop, ces danses dont je vous ai montré un court extrait en début de conférence. Alors évidemment, dans Dancing Tintin, c'est exposer une génération ultra connectée, abreuvée d'images, consumériste aussi d'images, de clips de stars occidentales, mais aussi des idoles de cette K-pop. C'est aussi exposer la pression que ça génère sur cette jeune génération. Pression d'être célèbre, pression d'être connu. Ça peut faire penser au phénomène culturellement assez proche en Chine du Tuanbo actuellement. Vous avez peut-être entendu parler de ces heures de streaming en groupe où des danseurs sont payés pour danser par des streamers qui leur demandent de danser toujours plus sans s'arrêter et qui essayent de gagner leur célébrité ainsi. Donc elle est touchée tous les endroits de cette culture coréenne. Et puis depuis quelques années, depuis 2020, et je finirai avec cette question-là, c'est dépasser la question de la culture coréenne ou uniquement coréenne pour aller vers les cultures et les relations transasiatiques. Et pour aller vers ces relations transasiatiques, elle commence en 2021 avec une pièce qui s'appelle « Dragon ». C'est un nouveau cycle qui là ouvre la question des danses de Corée du Sud vers les danses du Japon, d'Indonésie, de Malaisie, de Taïwan. Et pour cela, elle va constituer une équipe de danseurs auditionnés dans différents pays qui vont chacun, je dirais, être là pour présenter les danses de leur propre culture. Pour cela, elle parle de dragon parce que le dragon, c'est ce qu'ils ont en commun. Dans toutes les cultures, je dirais, d'Asie, mais même dans les cultures occidentales, on a des présences de dragons qui sont bien différents les uns des autres selon les cultures. D'ailleurs, en Occident, peut-être que le dragon est plus synonyme de peur et de monstre, là où en Orient, c'est plutôt symbole d'autorité, de sagesse. En tout cas, toujours le dragon a cette chose commune, c'est un animal qui est un assemblage, une recomposition à partir d'autres animaux. Et c'est pour ça qu'elle choisit ce dragon, pour dire que cette pièce va être un assemblage, une recomposition à partir de différentes cultures. Penser la culture coréenne au regard de cette ère asiatique élargie. Et je finirai en 5 minutes peut-être cette conférence sur cette question-là. Comment constituer ensemble de nouveaux dragons chorégraphiques? Alors elle a présenté cette pièce dans des tournées internationales. Là, je vais vous la présenter et je vais peut-être traduire une ou deux choses en même temps puisqu'elle parle en anglais pour ceux qui ne sont pas anglophones. Mais je voulais vous la montrer aussi pour vous montrer son énergie à Eun Myeon, qui est très importante peut-être pour comprendre son travail. Donc là, voici, elle va présenter son travail. Je vais dire quelques traductions au besoin au sujet de dragon. Oh, pardon, je fais une mauvaise manipulation.
I'm the choreographer of the Eun Myeon company. This is like we put all Asia together and the different culture. I mix it.
No boundaries. Je mélange différentes cultures. Aucune frontière. Les dragons rentrent dans l'eau. Ils nagent et s'envolent ensemble vers le ciel.
Then I spoke with my video director like what can be feel like we are dancing together.
Elle se pose la question de ce qu'elle pouvait faire avec son réalisateur vidéo. Ils choisissent les hologrammes et la 3D.
And then the dance is like suddenly 1 second you got some ideas, which is you can have feeling you alive. That's a signal from your body. That's I think I call dance. And then UK audience has a special, you know, love for the arts and culture. That's why it's going to be amazing experience sharing and talking and holding the hand and the smiling and then applauding together. Yay!
Une dernière phrase que je retiens de ce moment, elle dit « Ce signal du corps, c'est ça que j'appelle la danse. Être pris dans ce signal du corps. » Là, cette pièce jouera avec des hologrammes et la 3D. La pièce que nous allons voir et découvrir ce soir ensemble, Post-Orientalist Express, est dans cette lignée, est aussi un voyage. Cette fois-ci, c'est les voyages des danseurs de la compagnie. En 2019, donc ça remonte un petit peu, hein, Eun Myeon a réuni 8 danseurs et danseuses et ils ont voyagé ensemble à travers différents pays d'Asie et au-delà de l'Asie, hein, en Thaïlande, Philippines, Bali, Okinawa, Vietnam, Turquie, Russie, pour aller apprendre des danses traditionnelles. Aller apprendre des danses traditionnelles et pouvoir imaginer un spectacle où on se jouerait aussi du regard occidental sur ces danses traditionnelles qui a tendance à les confondre, à les mêler, et jouer de ces clichés qui ont pu être construits à partir de ces danses traditionnelles. Elle dit, car le regard occidental, avec ses connotations orientalistes souvent fantasmagoriques, concerne aussi ces terres-là. Mais au lieu d'accuser, je préfère m'en amuser. Je veux proposer un regard plus ouvert et partagé, telle une fenêtre sur un avenir plus serein. Il est donc question et idée de mêler des danses issues de différentes cultures asiatiques, mais cette fois-ci dansées par les danseurs eux-mêmes. Son idée à Eun Myeon, c'était aussi de partager avec ses danseurs la possibilité d'apprendre des danses, des cultures, je dirais, asiatiques voisines, et que ça devienne un terrain de jeu pour pouvoir les mêler, pour pouvoir partir des énergies respectives, mais ensuite pouvoir en construire des nouveaux imaginaires, on pourrait dire des nouveaux dragons, quelque part. Et puis, je noterai aussi que dans ce titre, Post-Orientalist Express, peut-être pour nous, hein, dans notre culture occidentale, il y a différents aspects. Il y a le post-orientalisme, pour en finir peut-être avec les clichés exotiques qui peuvent être véhiculés. Mais il y a aussi l'Orient Express, cette idée du voyage, hein, l'Orient Express, ce train qui, fin 19e, début 20e, emmenait les voyageurs de Paris à Istanbul. Il y avait cette idée d'un voyage aussi à travers des cultures. Et puis moi, je me disais qu'il y a aussi, dans ce titre de spectacle, peut-être possiblement le titre d'un journal. Ça serait la une d'un journal qui s'appellerait le Post-Orientalist Express, où finalement, on pourrait aussi... je dirais, référencer les dernières nouvelles, les dernières danses que l'on pourrait construire au XXIe siècle à partir de toutes ces traditions et dans un monde en profonde mutation. Pour finir, parce qu'il est largement l'heure, mais Anne-Mian a aussi un travail de plasticienne. Au-delà du fait qu'elle puisse travailler sur les costumes de ses spectacles et scénographies, elle fait aussi véritablement un travail de plasticienne qui est présenté dans des galeries d'art et dans le réseau des arts plastiques. Alors, je ne vais pas vous présenter, pour finir, en deux minutes, son propre travail, mais je vais vous présenter une présence, une performance qu'elle a faite dans une installation qui s'appelle Rainbow Assembly de Olafur Eliasson, qui est un plasticien renommé, je dirais, islando-danois, qui a présenté une exposition personnelle en 2016 au musée d'art Samsung de Séoul. Et dans cette installation Rainbow Assembly, il a l'idée de créer des arcs-en-ciel. Donc c'est une installation avec de la brume, de la bruine, un système lumineux qui crée des arcs-en-ciel. Et au sein de cette installation, Anne-Mian a été invitée à faire une performance avec de la musique. Et donc, je vous en présente quelques images pour peut-être aussi montrer sa présence poétique. Elle est toujours présente dans ses spectacles. Vous la verrez ce soir. Mais aussi cette dimension poétique de sa présence, la grandeur de son registre artistique aussi, qui est due à son insatiable curiosité. Là encore, réunir les arts dans un 21e siècle où on crée les arcs-en-ciel dans des salles d'exposition. Je l'arrête là. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous laisse votre temps avant le spectacle. Vous allez voir, comme certaines choses vous ai montrées, c'est très coloré en tous les cas, et je pense que ça va être très dynamisant pour nous, une très grande joie en tout cas qui sort de ces spectacles. Merci.